Depuis l'araignée, je suis skieur.
Salut les sportifs, c'est Hermano. Enfin non, je ne suis pas tout seul aujourd'hui pour vous enregistrer cette intro. J'ai dans les bras, ou plutôt dans l'écharpe de portage, mon quatrième enfant de 8 semaines et je suis très heureux que nous vous présentions l'épisode d'aujourd'hui à deux. Après avoir reçu Liv Sansoz, qui était déjà une recommandation de Mathieu Navillot, aujourd'hui je vous propose une seconde recommandation de Mathieu, à savoir un skieur freestyle, ancien skieur de boss, qui a même eu l'occasion de concourir aux Jeux Olympiques de Nagano et qui nous raconte son histoire de skieur alpin à skieur de boss à fabricant de ski avant de rejoindre l'équipe de Black Crowes. Vous verrez, cet épisode avec Julien Régnier est chargé d'émotions et Julien ne mâche pas ses mots. Juste avant de vous laisser écouter cet épisode, je voulais évidemment remercier toutes celles et tous ceux qui suivent le podcast Dans les Vestiaires, qui laissent des commentaires sur Apple Podcast, qui laissent des revues. Vous le savez, c'est grâce à ces revues que le podcast peut se faire connaître et toucher le maximum de personnes. Le sujet du financement des sportives et sportifs de haut niveau, des artistes et des aventuriers est à mon sens un sujet qu'il est nécessaire de diffuser au plus grand nombre. Assez parlé, je vous laisse écouter Julien. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires. Je suis comme toujours très heureux de vous recevoir et aujourd'hui je reçois un grand sportif qui m'a été recommandé par un invité que vous avez déjà entendu sur ce podcast qui était Mathieu Navillot. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Julien Régnier. Salut Julien.
Salut, bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va, super bien.
Bah, moi, ça va très bien. J'espère que nos auditeurs vont très bien aussi. Julien, je suis très content de t'avoir parce que, comme je le disais en introduction, tu m'as été recommandé par Mathieu Navillot, avec qui on a fait un superbe épisode. On a parlé de sa carrière, mais on a aussi parlé de des choses qu'il a entrepris après sa carrière et notamment de son beau projet Une bouteille à la mer. Moi, j'aimerais qu'on parle de toi maintenant. J'aimerais bien te laisser le micro pour que tu nous dises un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, et puis qu'on commence aussi par tes premiers souvenirs de sport et comment tu es arrivé dans le sport jusqu'au plus haut niveau.
Je m'appelle Julien Régnier, je suis skieur. J'ai commencé le ski par le ski alpin de manière classique dans un club et je me suis très vite tourné vers le ski artistique et acrobatique, comme on appelait ça à l'époque, notamment le ski de boss, avec lequel j'ai fait mes premiers faits d'armes, on va dire. C'est vraiment le sport que j'aimais plus que tout sur la neige parce qu'il y avait une espèce de domaine de liberté et puis j'aimais bien sauter en fait, j'aimais bien être en l'air et puis c'était surtout ça j'étais au club des sports et je suis dirigé sur la section ski artistique et acrobatique pour faire du ski de boss et j'ai assez vite été pas trop mauvais que ce soit en junior etc. Enfin en deux mots j'ai fait une bonne saison en circuit Coupe d'Europe où j'ai fini deuxième il me semble du circuit duel. L'année d'après j'avais 17-18 ans, j'étais en Coupe du Monde. Non, mais 18-19 ans, j'étais sur le circuit Coupe du Monde et j'ai été sélectionné pour les Jeux Olympiques, qui était quand même un petit morceau à mon âge et avec l'équipe de France de boss parce que c'était quand même une belle équipe. Donc, je suis allé aux Jeux Olympiques à Nagano. Je finis 11e. Qui était une déception pour moi parce que la Coupe du Monde avant j'avais fait deuxième donc j'avais du potentiel mais bon voilà c'était ma quatrième Coupe du Monde donc forcément pas forcément beaucoup d'expérience et puis une qualification un peu loupée donc voilà très dur de revenir en finale de toute façon en ski de boss si tu fais pas une bonne qualif c'est quasiment impossible de faire quelque chose en finale, surtout aux Jeux Olympiques avec des pistes assez, aseptisé et donc le niveau était est très nivelé et c'est dur de faire la différence. Enfin bref, de toute façon, j'ai pas en sorti le run de ouf en finale non plus, donc voilà, 11e. Et puis une fin de saison, je finis dans le top 10, je crois que je finis 9e du circuit Coupe du Monde cette saison-là, donc pas trop mal pour une première année. Et voilà, et en même temps, il y a eu l'émergence du ski freestyle comme on le connaît maintenant, avec les disciplines qu'on connaît qui sont un peu plus, on va dire, standardisées, qui sont le slopestyle, le big air et le halfpipe. À l'époque, c'était juste des petits jeunes avec des pelles dans la main qui construisaient des sauts un peu de partout, et notamment avec la discipline street qui se traduit, j'imagine, par le slopestyle maintenant dans la discipline standardisée, mais street, nous, c'était plus on allait dans les villes et puis on essayait de chercher des endroits pour faire des tricks. Puis à l'époque, d'ailleurs, au tout début, on n'en faisait pas beaucoup ça, un tout petit peu. Bah en tout cas, voilà, il y a tout ce pan du ski qu'on a vu naître et qu'on a, avec quelques amis, fait naître. Parce qu'à l'époque, on n'avait même pas de ski bispatulé. Alors, je sais pas, j'imagine que la plupart des auditeurs ne comprennent à peu près rien.
Bah justement, j'allais te demander plus de précision à tous ces aspects techniques, mais attends, c'est la beauté du podcast, les gens peuvent réécouter et puis retourner voir aussi sur Internet, mais vas-y,
bah allez, en fait,
explique-nous un petit peu tout ce que c'est.
Bon, le milieu du ski, c'est toujours un peu scindé entre le ski alpin et les disciplines alternatives, qui peuvent être le monoski, peut-être à une époque le snowboard, en tout cas le milieu de la glisse sur neige, toujours le ski alpin, une discipline assez noble et puis très très classique, hein, qui est les disciplines de vitesse, enfin un chronomètre, des piquets, et puis il y a tout ce côté un petit peu alternatif, rebelle, qui s'est traduit aux États-Unis avec l'émergence du hot dog dans les années 70, il me semble. Et qui a fini en ski artistique et acrobatique, ce dont je parlais tout à l'heure, qui est devenu une discipline olympique, ski de bosse, le saut, et à l'époque il y avait aussi le ballet, un peu de la danse sur neige. Et dans les années, fin des années 90, à mon époque, poussé par l'univers un peu skate et snowboard, on a vu l'émergence d'une nouvelle discipline freestyle alternative. Qui est le halfpipe, le slopestyle et le big air. Ça se pratique avec des skis qui sont quand même bien différents de ce qu'on avait pour faire du ski de boss. Donc une révolution au niveau matériel. Donc c'est des skis à double spatule, qui étaient aussi un petit peu plus larges. Vraiment, enfin, c'est un outil qui est différent. Je dis toujours on parce que je n'étais pas tout seul. Un certain nombre de personnes qui ont fait évoluer ces disciplines, et on a vraiment dû demander des nouveaux skis à nos fabricants de skis, penser à repenser et refabriquer des skis qui fonctionnaient pour nos disciplines, et puis voilà, adapter notre style et notre ski au halfpipe, au big air, au slopestyle, au gros saut dans la poudreuse aussi, parce que ça, c'est pareil, on n'avait pas d'outils pour faire des gros sauts dans la poudreuse, des disciplines qui s'appellent entre guillemets le backcountry, mais c'est juste, voilà, c'est des copains, une pelle, et puis on construit des sauts dans de la poudreuse. Et tout ça, ça accompagne avec du matériel. Il a fallu le fabriquer, il a fallu vraiment repenser tout ce qu'on avait sous les pieds pour être performant dans ces nouvelles disciplines. Alors ça, moi, ça m'a beaucoup intéressé, parce que j'aime bien le développement. Et voilà, c'était en parallèle de ma carrière sportive. Moi, je me suis blessé l'année d'après les Jeux Olympiques. Je me suis cassé deux fois la clavicule. Donc j'ai eu un peu une année blanche côté fédération et côté résultats dans les bosses. Et en parallèle, il y avait cette discipline qui grandissait. Il y avait vraiment une énergie très particulière. Il y avait plein de choses à faire. Et puis avec ce groupe de personnes qui comptaient JP Auclair, JF Cusson, Vincent Dorion, Bouviax pour les Français, Candide, enfin il y en avait plein. Il y avait vraiment une énergie particulière. Et puis moi j'avais vu que ça allait, que ça pouvait, que ça allait devenir quelque chose. Donc j'ai décidé d'arrêter le ski de bosse pour me consacrer entièrement à ces nouvelles disciplines. Au début, c'était absolument pas fédéré. C'était ce qui était probablement le plus intéressant. Et donc, il y avait tout à faire. Il y avait pas, donc, c'était pas fédéré, donc il n'y avait pas de compétition, ou très peu. La manière d'évoluer, de vivre et de fabriquer ce sport, c'était à travers les photos et les vidéos. Bon, il y a bien des gens qui nous ont dit qu'on était un peu des glandeurs et puis que blablabla, et que c'était facile, etc. Je souhaite bonne chance à quiconque veut essayer de se constituer une part qui tient la route pour un film de ski, parce que c'est énormément de travail et ça demande de la rigueur et l'envie de performer, l'envie de bien faire tout autant que de se préparer pour des Jeux Olympiques ou une saison de Coupe du Monde dans n'importe quel sport. Parce que l'intention fondamentale, elle est là, c'est vraiment l'acte sportif, le mouvement et la performance. Et que ce soit pour aller chercher une médaille ou pour aller faire un segment, pour moi, c'est le même principe. Bien sûr, dans la photo et la vidéo, il y a l'élément esthétique qui est important. Mais voilà, je pense que dans la préparation sportive d'un gymnaste ou quelques sports qui incluent un élément esthétique, comme le football, hein, j'imagine, il y a toujours un élément esthétique qui est sous-jacent et qui demande du travail et de l'attention. Donc, de toute façon, voilà, l'intention sportive, en tout cas, elle était là. Et puis la performance, elle y était aussi, parce qu'on était. Enfin, en tout cas, moi, j'étais jeune, j'avais envie de pousser, et c'est ce qu'on faisait. Donc voilà, ma carrière, elle a bifurqué à ce moment-là, dans ce milieu qui était le milieu du freestyle, comme on connaît maintenant. Et puis, j'en ai fait mon métier pendant une vingtaine d'années quasiment. Et moi, j'ai jamais vraiment fait. J'ai un peu loupé le coche des circuits compétition, Miss Game, etc. Parce que j'ai pas. Au début, c'était un sacré paquet de magouilles en fait pour rentrer dans ces compétitions. Puis moi, j'avais pas le support des sponsors ni des connaissances aux États-Unis, donc j'ai pas été sélectionné. Et puis, j'étais pas sélectionné, que je faisais partie des meilleurs, ça m'a vraiment très poliment cassé les couilles. Donc j'ai dit que j'avais pas besoin de ça pour évoluer et puis pour pratiquer le sport que j'aimais. Donc j'ai vraiment décidé de me concentrer sur la partie photo vidéo et voilà. Donc je me suis mis out hors du jeu de toutes ces compétitions qui émergeait. C'était sans doute une erreur de ma part, mais en tout cas, voilà, j'ai mal pris qu'on ne considère pas mes compétences dans le domaine, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient bons à l'époque, et qu'on me refuse de participer aux premiers sixièmes, etc. Donc voilà, et puis je crois que c'est à peu près tout, c'est déjà bien trop long. Mais je sais pas si tu as quelque chose à me demander.
Ah bah évidemment, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de réactions. Alors déjà, j'étais en train d'essayer de calculer un petit peu. Tu nous as dit que t'avais 18-19 ans quand t'as été sélectionné pour les Jeux Olympiques de Nagano.
Ouais.
Donc si je ne m'abuse, qui était en 98, alors j'allais me lancer dans des calculs savants, mais finalement on a le même âge. Donc okay. Donc je pense que là t'es pas très loin de la quarantaine, tout juste dépassé.
Ouais, 41. Ouais.
Et donc, mais donc, si je regarde un petit peu sur l'histoire du ski français, du ski de boss, tu es entre Edgar Gros-Piron, qui était lui au JO en 92, et puis un Mathieu Navillot qui est arrivé 10 ans après toi. Donc, tu es juste entre les deux, quoi.
Ouais, bah, j'imagine, ouais.
Ok, donc une carrière que tu as commencé d'abord par le ski alpin, tu l'as dit, c'est plutôt le classique chez les skieurs, enfin en tout cas à l'époque, commencer par l'alpin, après tu as bifurqué un peu sur le ski de boss, et puis après des JO, après deux fractures de la clavicule, alors je sais pas si t'as entendu, mais ça m'a fait beaucoup sourire parce que moi je sors d'une troisième fracture de la clavicule, là il y a 3 semaines, donc je sais à peu près ce que tu as ressenti, même si moi c'était sur le vélo, mais c'était pas sur les skis.
J'en ai eu une autre, hein. J'en ai 3 aussi.
Ah bah ok, donc on est frères de fracture de clavicule. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu as bifurqué vers cette nouvelle discipline qu'on appelle le ski freestyle maintenant. Et ouais, ça devait vraiment être exceptionnel, génial de vivre la naissance d'un sport. Tu l'as dit, c'était pas fédéré, c'était un peu compliqué. Ça doit être juste exceptionnel de vivre la naissance d'un sport qui est, enfin, où c'est juste une bande de potes qui s'amusent avec des pelles à construire des tremplins et des sauts et des parcours, sans où un sport pas fédéré jusqu'à un sport qui est maintenant qui fait vibrer le plus grand nombre. Comment est-ce que tu as pris cette décision de bifurquer d'un sport super encadré avec des championnats d'Europe, des coupes d'Europe, coupes du monde, Jeux Olympiques, à un sport où justement bah là c'est juste totalement en friche. Et puis tu l'as dit, t'as eu ce souci avec les X Games où t'as pas été sélectionné, donc t'as décidé de rester un petit peu en retraite tout ça. Mais malgré tout, pourquoi est-ce que t'as pris cette décision de switcher et pourquoi t'as pris la deuxième décision d'y rester?
Je sais pas si on pouvait dire qu'il y avait une sérénité dans le ski de boss. C'est pas, j'appellerais pas ça une sérénité. Ouais, non, parce que je sentais bien qu'il y a, hors les compétitions et, hors les Jeux Olympiques, les marques, elles s'en foutaient, en fait. Et bon, moi, je veux pas dire qu'on allait vers ce que les gens voulaient, mais les marques, clairement, le ski de boss, en 98, il y a eu Gros-Piron, qui a laissé sa marque. Après, voilà, moi, j'ai un parcours un peu particulier aussi, côté familial, parce qu'à 17 ans, j'étais un petit peu tout seul et j'ai dû me démerder assez vite. Donc, l'année d'avant les Jeux Olympiques, je me suis retrouvé tout seul et à devoir financer mes saisons pour continuer à skier, un peu avec l'aide, avec ce que j'ai pu. Et la saison des Jeux Olympiques, justement, j'ai fait deuxième en Coupe du Monde. Ça a permis de toucher, à l'époque, je crois que c'était 2 400 $ canadiens. Ça m'a permis de manger pendant, mais littéralement, après, je suis pas à plaindre, etc. J'avais un logement, tout ça. Mais ça m'a permis d'acheter à manger pendant un petit moment. Et ensuite, à la fin de saison, je suis allé faire une compétition de Big Air en Suède, qui a été un périple assez incroyable, parce que l'école m'a libéré. J'étais à l'école à Albertville, une section ski études. Donc on était libre en hiver et puis à partir du mois de mars on reprenait les cours et cette compétition arrivait pendant les cours. Ils m'ont quand même libéré parce que c'était un samedi dimanche, ils m'ont libéré le samedi matin. Et moi j'en avais clairement dit à l'école, en fait il faut que j'y aille parce qu'il faut que je gagne, parce que sinon j'ai pas de sous pour passer l'été. Et j'y suis allé, j'ai gagné, donc c'était bon. Et ensuite, ça a un peu déclenché le fait que voilà, j'ai les Rossignols qui m'ont soutenu. Vu que j'avais fait une bonne saison en Coupe du Monde, la Fédé me donnait un petit peu d'argent. Et puis ça c'était assez pour payer ce que j'avais à payer pour continuer. Mais en tout cas, au niveau des marques, on sentait bien que les marques, elles étaient quand même plus intéressées par. C'est aussi la grande époque du freeride. Moi, j'étais chez Rossignol, ils venaient de faire un petit team là, de freeride. Tu sentais clairement que, après les Jeux Olympiques, Rossignol se sont désengagés du pool ski de la Fédé en ski de boss. Donc, moi, j'avais plus de ski. J'étais chez Rossignol, j'avais plus de ski de boss, en tout cas je pouvais plus utiliser les ski de boss Rossignol pour ma partie ski de boss. Donc ils m'ont fait passer chez Dynastar, qui était une marque concurrente à l'époque, hein. C'était pas le même groupe. Ils ont dit ok, tu peux skier chez Dynastar, ça nous dérange pas, mais nous on veut te garder pour le côté freeride. Donc j'avais entre guillemets deux sponsors, ce qui était un peu bizarre, mais pour vous dire là, l'intérêt qu'avaient les marques par rapport au ski de boss, c'était pas énorme. C'est oui, t'es une discipline olympique, mais au final, en clair, le ski de boss, ça faisait pas vendre de ski. On n'y avait pas de marché. Il y a personne qui achète des ski de boss. Il n'y a jamais personne qui achète des ski de boss. Donc voilà, c'était pas, entre guillemets, l'avenir, c'était oui, champion olympique. Éventuellement avoir du charisme, éventuellement se vendre comme Edgar. Mais c'était pas. Le ski de boss, jamais, à l'époque, c'était pas vraiment moteur. Donc voilà. Mais en tout cas, pour poser les bases du problème. Mais c'était pas ça qui a motivé ma décision de toute façon. C'était vraiment la perspective de créer quelque chose de nouveau, de dynamique, avec une feuille blanche. Et énormément de choses à faire. Enfin, il y avait vraiment, on avait devant nous vraiment une feuille blanche côté sportif, parce qu'il y avait tout à faire. Il y avait vraiment une discipline à créer avec tout un changement de style, tout un changement de tout. Il y avait une feuille blanche côté produit avec énormément de choses à faire évoluer dans le ski, et le ski twin tip a énormément fait évoluer le ski de manière générale, parce que ça, malgré tout le talon à l'arrière et le fait que les skis soient relevés à l'arrière, ça a vraiment apporté une skiabilité différente. Et il y a énormément de skis maintenant qui sont sur le marché, qui ont des talons qui sont un petit peu relevés, même si c'est pas énormément, même si c'est pas pour aller en marche arrière. Mais en termes de skiabilité, ça change énormément. Et il y avait aussi très rapidement, moi j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire côté de création de marque et puis de création d'identité culturelle. Donc moi voilà, c'est quelque chose qui m'a plu et j'ai ça a été dur hein, de prendre la décision, parce que moi j'étais fondamentalement fort en ski de boss. Je suis pas un sportif surdoué là, c'est pas parce que je enfin en tout cas comment dire les tests physiques etc, j'ai jamais été très brillant. Dans les autres disciplines, à l'entraînement, etc., moi, j'étais jamais le meilleur. Mais en ski de boss, j'étais très bon. Donc oui, le ski de boss, c'était mon sport de prédilection. C'est vraiment là-dedans où j'étais fort. Donc ça a été compliqué d'arrêter, hein, parce que moi, j'avais des ambitions, évidemment, olympiques, champion du monde. Ma mère a été championne du monde. De ski alpin en slalom, donc j'ai toujours rêvé d'être champion du monde.
Ah oui, donc tu venais pas d'une famille de néophytes du ski, t'as déjà baigné dedans depuis que t'es né.
Ouais, bah comme beaucoup de gamins en station, on n'est pas, je suis pas le seul fils de grands sportifs du ski, puis on avait tellement à l'époque là, à l'époque de ma maman, il y avait énormément de très bons athlètes français. Mais oui, la famille, ça remonte aux grands-parents. Donc voilà, c'est vraiment, je viens d'une famille de skieurs.
Tu viens d'une famille de skieurs alpins, donc tu as en plus brisé la chaîne de la famille.
Ouais, tout à fait. La honte. L'enfer. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. En tout cas, oui, ça a été dur d'arrêter, mais c'est, d'un autre côté, ça n'a pas été fondamentalement dur, parce que moi j'avais. Enfin, en tout cas, avec le nouvel encadrement de la. Qui a été mise en place après Nagano, ça s'est pas super bien passé. Donc il y avait une approche un petit peu militaire là, ce que j'ai pas trop compris jusqu'à ce jour. Je crois que je comprendrai jamais. Donc tout le monde devait faire pareil. C'était un peu étrange. Et surtout, on n'avait pas le droit de s'investir dans les nouvelles disciplines. Donc à un moment donné, ils m'ont un peu fait comprendre qu'il fallait choisir, ce que je conçois, mais bref, à l'époque, j'avais pas l'impression que c'était fondamentalement néfaste. Moi, tout ce que je voulais, c'est skier, ce qui est le plus possible, et puis tout ce que je voulais, c'était aussi apporter de la fraîcheur dans la discipline du ski de boss, et notamment en apportant toutes les choses. Qu'on pouvait faire dans les nouvelles disciplines. Et nous, toutes les personnes qui ont un peu, enfin, toutes, pas forcément intégralement toutes, mais beaucoup des personnes qui ont fait naître ces nouvelles disciplines étaient les skieurs de boss. Et pendant un moment, on voulait vraiment changer le ski de boss, lui apporter les grabs, les secoules, pouvoir mettre la tête en bas, etc. Et on s'est retrouvé contre des murs. Par rapport aux fédérations, par rapport aux juges, ça a été assez lamentable. Je comprends toujours pas que des juges puissent freiner le développement d'une discipline créative comme ça. Est-ce qu'on était capable de faire à Salt Lake City, est-ce qu'on aurait été capable de faire à Salt Lake City les bosseurs et la discipline des boss l'ont fait 8 ans plus tard. En tout cas, il y a un retard de quasiment une décennie parce que moi je considère que c'est les juges et puis et bien souvent les coachs qui ont pas compris que le sport pouvait évoluer et comment il pouvait évoluer. Je trouve qu'il a évolué d'une manière très très formelle et c'est pas. J'ai un profond respect pour les athlètes, attention. Mais je trouve que la discipline est hyper rébarbative et qu'ils font tous la même chose. Ils font des choses extraordinaires. Mais c'est un peu. En tout cas, moi, je ne regarde pas. Et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'à un moment donné, il y avait vraiment des belles intentions qui n'ont pas été suivies. Donc, pour toutes ces raisons, j'étais aussi à un moment donné bien content de d'arrêter tout ça et puis de fabriquer un sport où tout était permis, tout simplement quoi. Si on voulait faire un 7-20 avec la tête un petit peu en bas, on faisait un 7-20 avec la tête en bas et puis il n'y avait pas quatre blaireaux pour te juger et te dire qu'il fallait pas mettre la tête en bas. Il y avait le public et puis les gens étaient contents généralement et puis ils aiment bien et puis les gens aiment bien quand c'est nouveau et quand c'est pas forcément formaté et que c'est à l'énergie quoi. Ils jugeaient à l'énergie, à l'envie, à le mec qui envoie, qui sait prendre des risques, etc. Et ça, le public comprend très vite quoi. Alors que les juges, ils jugent à tu fais une faute à droite, il y a un petit bout de bâton qui est mal planté, tu perds des points, et qu'ils comprennent pas la prise de risque, l'innovation, la créativité, quoi. Et c'est ce qui a vraiment manqué au ski de boss, et c'est une des raisons pour laquelle on s'est tous barrés.
Alors, ce qui explique peut-être aussi l'avènement de tous ces nouveaux sports, de ces sports assez créatifs, alternatifs, de ces sports extrêmes où il y a tant d'athlètes d'anciens sports qui excellent et puis le public qui plébiscite ça énormément. Et peut-être aussi ce qui explique cet avènement, comme tu l'as dit, pendant ta première partie d'intervention pour la photo, la vidéo, le fait que ces sports-là vivent aussi par les médias et que ce soit le public qui le plébiscite et plus des, entre guillemets, des juges en rond de cuir qui restent assis sur leur chaise et qui attendent de voir la prochaine faute technique qui va se passer.
Ouais, clairement, je pense que c'est ça. Après, les disciplines, elles vivent avec les gens. Si on fait du ski de bosse juste pour se regarder le bout des spatules tous les 4 ans dans un nouveau pays du monde, c'est pas très intéressant. Moi, l'ambition, quand on a commencé, quand il y a les nouvelles disciplines qui sont créées, moi, mon ambition, c'était de voir des snowparks avec bourré de skieurs dedans. Je voulais que les gamins ils s'amusent, j'en faisais partie, hein, les gamins, mais je voulais qu'il y ait des snowparks, qu'il y ait des skieurs, qu'il y ait des gens qui achètent des skis, qu'il y ait des gens qui vivent le ski, quoi. Qu'il y ait des gens qui vivent le sport. Pas avoir un sport où on est 50 pecnos à descendre des bosses et puis c'est terminé, quoi. Il y a personne qui regarde, il y a les télés, on vole pas. C'était ça, le ski de bosse à l'époque. Nous, on voulait faire des trucs cool où il y avait de l'engouement.
Comme je te dis, je pense que c'est à mon sens ce qui explique cet avènement pour les nouveaux sports. Un petit peu le ras-le-bol de certains sportifs qui étaient plus créatifs, plus innovants, et puis surtout le public qui adoube cette nouvelle génération ou cette nouvelle entrain pour des nouveaux sports. Si on revenait un petit peu sur les différentes phases de tes carrières sportives, puisque l'essence même de ce podcast dans les vestiaires, c'est de revenir justement sur les moyens que vous mettez, vous, les sportives et les sportifs, pour financer vos carrières. Tu l'as dit, sur la première partie de ta carrière, quand tu étais en ski alpin, en ski de bosse, au bout d'un moment, ça commençait à devenir difficile avec les marques, avec les sponsors. Comment est-ce qu'on vit dans ce monde-là? Est-ce que c'est un tout petit peu d'aide de la fédération? Est-ce que c'est un petit peu d'aide des amis et un petit peu d'aide, de la ville, de la région, des instances du ski en général, ou est-ce qu'il faut se battre au quotidien pour essayer d'avoir un ou deux sponsors, alors pas que pour le matériel, mais aussi des sponsors qui te filent un petit chèque de temps en temps. Tu l'as dit, t'as fait quelques compétitions. Est-ce qu'il faut faire la course aux compétitions, la course au prize money? Comment on vit ça, et surtout quand on a 17, 18, 19 ans, quoi?
Je crois que chacun a son... À son petit pan d'histoire là-dedans, et pourra questionner tous les sportifs, ils sont démerdés un petit peu différemment.
D'où l'attrait de ce podcast, je suis certain, ouais, que je ne m'embêterai jamais, parce que vous avez tous des techniques différentes.
Et on a, en tout cas, moi, en parlant de moi, ce sera plus simple. Moi, j'ai eu un peu de chance, comme je l'ai dit au début, j'ai fait deux compétitions qui m'ont rapporté un petit peu d'argent, permis de continuer à financer mes saisons. Évidemment, au début, on n'a pas besoin de grand chose. Et petit à petit, j'ai dû aller commencer à signer des contrats. Et les petits contrats, tu fais des calculs, tu vois ce que tu as besoin. Et puis généralement, ça finance ta saison et tu remets tout dans le pot pour aller skier, quoi. Donc c'est un peu ça la règle générale des skieurs que je connaissais. On faisait un petit peu d'argent, puis on essayait de tout remettre pour faire des voyages, faire nos films, faire nos vidéos, nos photos. Mais moi, ça a été principalement financé par du sponsoring, parce que j'ai pas fait de compétition. Donc je suis pas allé à la course au prize money. Et donc c'était signature de contrat et puis voilà. Donc c'était pas hyper compliqué, mais on a eu la chance à cette époque-là d'avoir qui était capable d'allonger un petit peu d'argent pour qu'on puisse survivre. Généralement, en tout cas moi, ça a toujours été le cas. C'était un peu la survie, les points barres. Après, je me plains pas du tout, mais ça a jamais été le jackpot. Au début, il y avait eu un petit peu d'aide de la Fédé, qui est vite parti évidemment, vu que j'ai arrêté. Et ensuite, moi, j'ai fabriqué ma marque assez rapidement en 2001.
Attends, on va revenir là-dessus peut-être un petit peu après. J'ai encore pas mal de questions. Justement, quand tu dis que tu avais un petit peu d'aide de la Fédé, quand tu dis que tu survivais avec l'aide des sponsors, est-ce que tu te souviens et est-ce que tu veux en parler à peu près des montants que ça représentait? Ouais, est-ce que c'était quelque chose de décent ou est-ce que c'était juste vraiment survivre quoi? Tu t'achetais un paquet de pâtes tous les deux jours et puis tu essayais de pas trop taper dedans parce que de toute façon, tu savais pas ce que tu avais pour le troisième.
J'ai commencé à gagner ma vie parce que j'ai fait 9e du circuit du monde en 98, donc j'étais en élite. Et en élite, il me semble, sauf erreur de ma part, qu'on gagnait 500 francs par mois.
Alors, francs, 500 francs. On parle même pas d'euros, hein, chères auditrices, chers auditeurs, on parle de francs. Hein.
Je m'en rappelle plus. Enfin, en tout cas, c'était pas grand chose. Mais moi, à 18 ans, je trouvais ça déjà bien cool.
Ouais.
Parce que je me rappelle, j'étais très copain avec Yannick Gavaggio, parce qu'on a fait nos études un peu ensemble. Il était un peu plus vieux, mais on était dans la même école pendant un moment. Et Yannick était un peu dans la même situation parce qu'il était, son père était pas dans la région et qu'il avait un petit appart, sur Bourse à Maurice et puis qui devait un peu gérer sa vie comme elle était tout seul quoi. Je me souviens qu'on passait un petit peu de moments ensemble et puis qu'on s'est dit bon pour bouffer il nous faut un minimum de ça et puis c'était un peu le maître étalon c'était la bouffe et puis moi j'ai jamais manqué d'argent pour manger. À partir de ce moment-là, c'était déjà pas mal. Et puis après, j'avais quand même du soutien un petit peu de ma famille, même si c'était très particulier, je savais que j'avais du soutien. Mais j'avais une volonté de me débrouiller par moi-même. Ensuite, il y avait un peu l'argent des véhicules, des déplacements, etc., qui ont été assez vite pris en charge pour les gros trucs par mes sponsors.
Okay.
Mais oui, c'est mon premier contrat en signal. Je crois que c'était 20 000 francs. Et c'est pareil, j'ai des vagues souvenirs. Assez dur à dire, mais c'était pas énorme. Hein. C'était vraiment de quoi passer les hivers et puis s'acheter à manger. Après le reste, on payait pas grand chose. Hein. Dès qu'on était en déplacement, c'est les sponsors qui payaient. Et puis forfait, évidemment, j'avais un petit sponsoring aussi avec la plane pendant un moment. Donc forfait, on payait pas. Et puis les fringues, tu payes pas. Il y a plein de choses que tu payes pas quand t'es athlète. Donc voilà. Ah. Et puis à 18 ans, t'as pas besoin de grand chose.
Ça justement, c'était la phase où t'étais dans le ski alpin ou dans le ski de boss. Est-ce que la Fédé vous aidait aussi un petit peu pour tout ce qui était déplacement ou c'était uniquement pour les déplacements officiels, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, Jeux Olympiques?
Ben, nous, c'était assez centralisé sur Albertville et Annecy. Alors, une fois que tu arrivais à Annecy, de toute façon, tu rentrais dans le bus de la Fédé et puis ils payaient l'hôtel et la bouffe. Hein.
Ouais.
Donc, voilà. Tant que tu manges, tu peux t'entraîner.
Et est-ce que vous aviez des structures d'accueil enfin, tu dis que vous aviez un petit appart, mais est-ce que c'était des apparts mis à disposition par la Fédé, justement, ou par l'école, puisque tu disais que tu as fait un sport-études ski, ou vous preniez votre appart de votre côté?
Alors, moi, j'ai toujours eu la chance, justement, d'avoir un logement.
D'accord.
Familial. Donc, ça m'a quand même vraiment bien aidé. Bon, c'est toujours ça en moins dans le budget, même si ça fait des frais des fois. Mais bref, ça de ce côté-là, j'ai eu cette chance. La Fédé, il mettait un petit peu, il me semble, à disposition des petits apparts sur Annecy pendant un moment. Moi, j'en ai jamais eu le besoin. Et sinon, on était logés avec l'école. Et voilà.
Là, c'était la première partie de ta vie de skieur alpin et de bosseur.
Enfin, de ski de boss, hein, ski alpin, j'ai arrêté à un moment.
Et puis, donc après cette partie de ski de boss, de bosseur en ski de boss, tu t'es décidé à bosser tout court pour te mettre dans un nouveau sport qui n'existait pas encore ou du moins qui n'était pas encore cadré. À ce moment-là, comment est-ce que tu faisais pour vivre? Alors, tu nous as dit au début que tu avais un petit peu axé tout ça sur les médias, sur la photo, sur la vidéo. Comment ça se passe pour un athlète qui veut vivre de son sport, qui veut créer ce sport et qui, en plus, va chercher des gens à qui vendre des images, des gens à qui vendre des documentaires? Comment est-ce qu'on vit en tant qu'athlète et pas athlète de haut niveau? Parce que j'imagine que si c'était un sport non fédéré, vous aviez pas le statut de sportif de haut niveau qui est délivré par le ministère des Sports.
Ah ouais, enfin moi je l'avais eu en tant que skieur de boss, et puis avec ma petite carrière là, j'étais allé aux Jeux Olympiques, etc. J'ai profité d'avoir le statut d'athlète de haut niveau. Enfin, alors après je sais pas à quoi ça sert ce truc. Enfin, je sais à quoi ça m'a servi moi, c'était à passer mon monitorat de manière un peu plus expéditive, mon monitorat de ski. De manière un peu plus expéditive que de le passer en candidat régulier. Donc ça, c'est sûr que c'est super bien pour les sportifs du milieu du ski, mais effectivement, il faut faire partie des disciplines qui ont le label, enfin qui sont FFS en fait. Et il y a des quotas, etc. C'est un sujet assez polémique, mais je dirais juste ça, en fait. C'est polémique.
Tu restes politiquement correct ?
Non, on pourrait en débattre, mais le monitorat de ski, moi j'en ai profité, hein, je suis très content, je suis moniteur de ski, mais il y a des... Il y a, donc le monitorat en France, quand tu es moniteur de ski, tu es moniteur de snowboard aussi. Donc, un champion olympique de ski alpin, il va être moniteur de snowboard, mais il ne sait pas faire du snowboard. Ça, je peux vous le garantir. Mais un champion olympique de snowboard, il ne sait pas faire du ski. Mieux que le skieur alpin sait faire du snowboard, mais il ne sait quand même pas très bien faire du ski. Mais on lui impose de devoir bien faire du ski pour avoir son monitorat de snowboard. Parce que l'ENSA, c'est le ski. Mais il délivre quand même des attestations de moniteur de snowboard, mais quand même, il faut quand même savoir faire du ski, il ne faut pas déconner. Mais par contre, les skieurs, bon, faire du snowboard, c'est pas très grave, quoi. Et ça, je trouve ça profondément injuste et profondément étrange qu'on ne respecte pas les qualités des snowboarders et qui se voient affligés de semaines en plus pour de la remise à niveau en ski et qu'on les prenne pour des pignoux. Alors que voilà, si tu as des champions olympiques de snowboard, ils vont enseigner du snowboard, quoi. Bref, je trouve ça assez étrange. Mais le fait que le monitorat de ski et de snowboard soit si lié et délivré en même temps et pas avec vraiment les mêmes compétences dans ces deux disciplines, et ça est assez étrange. Mais en tout cas, oui, le statut de haut niveau, pour revenir au statut de haut niveau, ça donne ça pour les sportifs du milieu du ski qui sont dans les fédérations. C'est-à-dire que si tu es champion du monde de freeride, t'as le droit à rien. Tu passes ton monitorat en candidat libre. Bon, après, voilà, j'imagine que les gens s'engagent pas dans des carrières de sportifs pour avoir ce genre de petits avantages. Moi, j'y ai jamais pensé et je m'en foutais complètement. C'est dommage qu'une fille comme Marion Herty, par exemple, qui est triple championne du monde de freeride en snowboard, n'ait pas son monitorat de snowboard de manière accélérée. Mais voilà, c'est des avantages. Je ne sais pas pourquoi on les a d'ailleurs, ces avantages, parce que entre être bon en ski et savoir enseigner le ski, il y a aussi une belle différence. Mais c'est sans doute des avantages qui nous permettent d'avoir une reconversion. Et effectivement, les gens qui font du freeride n'ont pas accès à ça. Et c'est un peu plus compliqué. Parce que malgré tout, le monitorat en France, c'est quand même une belle... c'est pas évident à avoir. C'est beaucoup de stages, c'est beaucoup d'heures de formation. Et je pense que quand tu es en pleine carrière sportive, tu n'as pas forcément le temps de le faire. Et si tu finis ta carrière à 35 ans, est-ce que c'est à 35 ans que tu vas avoir l'énergie, la motivation pour te retaper encore 3 ans de formation dans un sport que tu considères maîtriser relativement bien? Effectivement, c'est questionnable. Donc voilà, le statut de haut niveau, en clair, ça sert à ça. Si ça sert à autre chose, je n'étais pas au courant.
Ça sert peut-être à avoir quelques aides de la part du ministère, non? Et encore, c'est pas grand-chose.
En tout cas, moi, j'en ai jamais eu, et je sais pas. Honnêtement, je sais pas si ça aide. J'ai aucune idée, en fait. Je sais pas du tout. Moi, j'étais pas dans cet esprit. Ça m'intéressait pas, ça. Moi, je voulais juste faire mon sport, créer. Et j'étais pas dans l'esprit, ok, j'ai le statut, qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que machin. J'ai fait mon monitorat très tard, parce que principalement tous les stages étaient en fin de saison. Moi, en fin de saison, je partais skier traditionnellement, la fin de saison pour un freerider, c'est une période très très occupée parce qu'il y a de la bonne neige et il y a plein de conditions qui sont bonnes pour filmer. Donc c'est pas le moment de m'investir dans le monitorat. Mais voilà, je me perds un petit peu là.
Mais alors du coup, revenons-en à la question que je t'avais posée avant de parler du haut niveau, c'est comment est-ce que, une fois que tu as décidé de switcher vers ce nouveau sport, comment est-ce qu'on vit, alors non seulement financièrement, mais aussi comment est-ce qu'on vit la création de ce sport, l'encadrement du sport, la fédération, et puis d'un point de vue financier, comment est-ce qu'on vit aussi? Comment est-ce que tu vas chercher des gens à qui vendre des images? Comment est-ce que tu vas chercher des sponsors, que ce soit des sponsors matériels ou des sponsors alimentaires ou des sponsors financiers? Ouais. Comment est-ce que, en tant que petit jeune d'une vingtaine d'années, on se lance là-dedans?
Nous, c'était assez simple. À l'époque, la configuration, c'était t'es bon, t'es dans les meilleures vidéos. Si t'es dans les meilleures vidéos, entre guillemets, il y a moyen d'aller chercher de l'argent avec des sponsors.
Okay.
Pour être dans les vidéos, tu vends pas tes images pour être dans les vidéos, tu donnes ton temps et ta santé pour être dans la vidéo. Et le producteur, il est bien gentil de te filmer, entre guillemets.
Ok.
J'ai eu un projet où j'ai été payé pour filmer, pour être dans une vidéo. Et c'était un projet très particulier, c'était un film IMAX. Mais toutes les vidéos, les petites vidéos et les productions de vidéos spécialisées, tu penses bien que les producteurs aient gagné encore moins de sous que nous. Donc, c'était pas eux qui allaient payer pour acheter des images. Eux, ils payaient déjà pour envoyer des filmeurs nous filmer. Donc voilà.
Alors du coup, comment est-ce qu'on évolue dans ce milieu-là? J'imagine que pour rencontrer des producteurs qui vont faire ces films et t'envoyer un vidéaste, un caméraman, il faut quand même bien te faire connaître. Donc comment est-ce que tu vas vers eux? Comment est-ce que tu vas vers à leur rencontre? Est-ce que c'est être toujours présent sur les pistes? Est-ce que c'est alors à l'époque, ça devait être filmé à la VHS et envoyer des cassettes à droite à gauche, comme on peut l'entendre aussi parfois pour les musiciens, pour les artistes, ou est-ce que c'est du bouche à oreille, est-ce que c'est du réseau? Comment est-ce qu'on se débrouille pour ressortir de tout ça?
Bon, à l'époque, on était, je pense qu'on n'était pas plus d'une quinzaine à faire ça. Donc, après, il y avait le milieu du freeride qui était un petit peu plus ouvert avec plus de monde, et les producteurs venaient plus de ce milieu. Mais Moi, je me suis vite bien entendu avec Johnny De Cesari, avec qui j'ai filmé la plupart des films dans lesquels je faisais partie dans ma carrière, c'est Power Boys Production. Une fois qu'on s'était bien entendu, voilà, c'était parti. On savait qu'on allait travailler ensemble. On se faisait des plans pour la saison qui arrivait, avec des trips, avec notamment moi j'ai passé quelques hivers à Whistler au Canada pour vraiment me concentrer sur la discipline backcountry, donc en poudreuse. J'ai loué une baraque là-bas, acheté des motoneiges pour accéder aux zones qui étaient bien. Et puis voilà, enfin, t'essayes de faire les plans et puis essayer de bien performer pour être sûr d'être dans la vidéo, parce que si tu performes pas bien, soit t'auras une mauvaise part, soit tu seras pas dans la vidéo. Et puis là, l'année d'après, les sponsors, ils vont pas forcément être contents.
Et donc là, tu parles de tes sponsors, c'est-à-dire que tu avais des marques, tu avais des fabricants, tu avais des constructeurs de matériel de ski, principalement spécialisés dans le freeride, qui te suivaient, qui te faisaient un petit chèque en début d'année ou qui simplement te filaient du matos. Comment ça se passe à cette époque-là pour toi?
Bah, c'est ça, c'est Rossignol, Oakley. Rossignol et Oakley, moi j'avais à l'époque, il me semble. Donc, tu as un contrat début de saison et puis voilà, un petit peu d'argent et du budget voyage pour financer les voyages et puis le film. Et puis croise les doigts pour que tu fasses une bonne saison.
Alors, tu te souviens un petit peu des montants? Est-ce qu'on parle de centaines d'euros, de milliers d'euros, de dizaines de milliers, de centaines de milliers? Alors c'est pas pour être indécent, hein, mais c'est simplement pour fixer un peu le débat et puis que les auditeurs comprennent un petit peu à quel point ça peut être difficile et le stress que ça peut générer tous les ans en début de saison, quoi.
Oh, j'étais pas trop stress, moi. J'ai l'impression. Mais c'était quoi? C'était 15 000 euros, je crois. 15 000 sur les skis, peut-être 5 000 sur les masques. Peut-être 2-3 000 avec la station. C'est à peu près ça, je pense que.
Tout ça, c'est
20-25 000, ouais.
Et ça, c'était de la dotation produit ou c'est
des chèques? Non, c'était de l'argent.
Ok. Et donc. Et
avec du budget voyage. Et le budget voyage, je l'avais avec Rossignol uniquement et ça me permettait quand même de bien bouger.
Ok, donc si, pour récapituler un petit peu cette deuxième vie que tu as vécue après les JO et après le ski de boss, c'était aller prendre du plaisir à pratiquer ton sport, du freeride, et avec le support de tes sponsors, des marques qui te filaient un petit peu de pognon pour apparaître sur toi, pendant que toi, tu essayais de te débattre pour t'entraîner au mieux et apparaître dans les vidéos avec les plus grands producteurs pour que ton image, et par ricochet l'image de tes sponsors, soit relayée.
Ouais, après la notion du plaisir, il ne faut pas qu'elle prédomine dans le discours parce que moi, je pense qu'elle était la même qu'un sportif classique qui s'entraîne pour les championnats du monde, etc. Enfin, c'est pas on part pour se faire plaisir. Enfin, en tout cas, moi, je pour bien comprendre notre métier, quand il y a une journée de poudreuse, pour faire ce qu'on a à faire, généralement, moi, je fais un run dans la journée. C'est-à-dire que je patauge dans la neige, dans la poudreuse toute la journée. Et au final, j'ai fait un run quand si j'y allais pour mon plaisir, j'en ferais 10 ou 15.
Ouais.
Et c'est compliqué de filmer. Moi, j'ai passé des 4 jours à construire des sauts. 4 jours avec une pelle, à brasser de la neige pour fabriquer un saut. Et après ça, tu le sautes, tu as deux images qui constituent à peu près 8 secondes d'image sur ta part. Et ça, là, c'est 5 jours de travail. Mais moi, j'adorais. Hein. Il n'y a pas de souci. Je me plains vraiment pas. Mais il faut comprendre ce que c'est. C'est pas quand vous nous voyez faire un gros slash en poudreuse, derrière, il y a quand quantité abominable de travail. Il faut que le caméraman fasse bien son boulot, faut qu'il soit au bon endroit. Et puis la neige, c'est un élément qui est, je pense, le plus dur à travailler en sport et en image, parce qu'il y a toujours, un peu de travers, ça tu peux être sûr. Donc c'est toujours très compliqué, quoi qu'il arrive. Il n'y en a jamais de facile, comme on disait à l'époque. Donc la notion plaisir, c'est plaisir de travailler et de créer, mais c'est pas youpi, on y va et puis on fait des bouts toute la journée en descendant dans les pentes.
Alors, c'est pas ma façon à moi de faire du ski, qui a découvert le ski il y a 3-4 ans, où je m'amuse à descendre une piste et j'ai horreur de me retrouver dans le tire-fesse parce que finalement on perd du temps.
Et ben ouais, moi généralement je fais un run quand je travaille.
Alors ce qui est pas mal, c'est que tu dis 4 jours avec une pelle à créer des tremplins, bah ça t'évite un petit peu de prépa physique derrière. C'est, tu l'as fait pendant que tu crées tes tremplins, quoi.
Des kilos de neige en embrassé, ouais, ça c'est sûr.
Bon, pour revenons un petit peu un peu plus sérieux. Donc ça, c'était pour ta deuxième vie et finalement tu as commencé à nous le dire tout à l'heure, mais je t'ai arrêté un petit peu pour qu'on déroule le fil tout en découvrant cette deuxième vie. Tu t'es aussi lancé dans une troisième vie qui était celle justement de d'aller créer tes produits pour toi, pour les autres. Quelle était ta motivation en fait?
La motivation, c'était vraiment de faire quelque chose qui était à moi, avec du contrôle. Je crois que c'était ça, fondamentalement. Parce que j'étais chez Rossignol, ça se passait relativement bien, mais entre guillemets relativement mal, parce que les gens étaient gentils. Moi, je suis très satisfait de mon passage chez Rossignol. C'est une marque que j'aime bien. Avec des gens qui ont toujours été assez droits et très sympathiques. Ça se passait mal dans le sens où j'arrivais pas à voir ce que je voulais, ce que j'avais dans la tête. Et puis, il y avait énormément d'inertie dans la prise de décision, ce que je comprends totalement. Hein. C'est comme ça. Et encore qu'on a réussi à faire des trucs assez assez incroyables, je trouve. C'est assez incroyable parce que je me rappelle, c'est un fait marquant que j'ai eu chez Rossignol. J'étais dans le bureau du marketing France et puis comme d'habitude, je gueulais parce que j'avais pas ce que je voulais. J'avais pas les skis que je voulais, etc. J'étais là, il me faut des skis comme ça, blablabla. Et puis évidemment, les gars au marketing France, tu penses bien que dans une grande boîte comme ça, et puis ils peuvent pas faire grand chose, c'est du développement. Le développement, c'est d'autres personnes, etc. C'est des enjeux qui sont quand même pas anodins parce que développer une paire de skis, faut que ça rapporte de l'argent. Écouter un jeune de 18 berges, pourquoi ? Ce que je conçois. Mais en tout cas, j'étais en train de gueuler. Il y a un mec qui est derrière moi et qui m'entend. Et ce mec, c'était Henri Debord, qui était le patron de la section recherche et développement chez Rossignol. Et il vient me voir et me dit, mais c'est quoi que tu veux en fait ? Il se présente, tout ça, et puis là, je continue à gueuler, quoi. Enfin, je continue à gueuler gentiment, quoi. Je lui explique ce que je veux. Et il me dit, pas de souci, moi, je vais te le faire. Parce que lui, il était à la recherche de ça. C'est ça qu'il fallait qu'il fasse. C'est trouver les idées de demain. Et 2 mois plus tard, j'ai eu mes skis. C'était génial, quoi. C'était génial parce que, voilà. Donc, par hasard, j'ai rencontré la bonne personne. Après, on a fait 2-3 projets ensemble qui étaient super intéressants et marrants. Et malgré tout, ces skis ont lancé quelque chose chez Rossignol. Il y a aussi eu, à l'époque, je ne sais plus qui c'était le patron, mais il y a le patron qui s'est mis dessus, qui a skié avec ses skis. C'est ce que je disais au début. C'est que ces skis, même si tu n'es pas freestyler, ils apportent vraiment une facilité, un côté ludique. Les skis de freestyle, c'est des super skis à tout faire. et pour tout le monde, et qui reste quand même bien performant. Donc c'est quand même des skis qui sont très cool à skier. Et le patron s'était mis dessus parce qu'il voilà, il testait un peu tous les produits qui sortaient. C'était un petit peu plus tard, hein. C'était un peu, je pense, ça devait être 6 mois ou 1 an après les premiers protos qu'on avait eus. Et il a dit, mais ces skis sont géniaux. Et à partir du moment où le patron dit ces skis sont géniaux, voilà, ça.
Bah forcément, ça lance toute une chaîne.
Ça lance tout un truc. Et voilà, ça a débloqué un petit peu le processus. Et moi, ça m'a vraiment permis de m'intéresser au développement parce que j'avais des idées en tête et que je voulais les voir réaliser. Évidemment, que même à rencontrer Henri et être dans un gros groupe, c'est jamais facile. On avait eu le ski freestyle, maintenant moi je voulais un ski de freestyle backcountry, donc plus large. Enfin, j'avais mes idées en tête. Pour un tir-fesse, j'en avais parlé à un mec de Salomon à l'époque, et eux, ils m'avaient écouté. Ils avaient sorti le premier ski de freestyle backcountry. Il me l'a dit quelques années après. Il m'a dit, tu vois, ce ski-là, c'est à cause de toi qu'on l'a sorti.
Ouais, il ne faudrait pas que Rossignol écoute alors.
Bah si, si, il devrait, parce que ça leur permettrait de. Bon, après, voilà, moi, je dis pas que, tu vois, les gamins de 18 berges qui disent des conneries, on a plein. Et puis, après, c'est dur, c'est compliqué de faire totalement confiance. Et puis les projets, de manière rétrospective, c'est facile à dire. Mais forcément, quand tu es dedans, je comprends que, voilà, ils n'aient pas chopé l'opportunité, c'était pas ce qu'ils avaient envie de faire, c'était pas leur focus. Et c'est comme ça, et c'est pour ça, de toute façon, que moi, je me suis barré et que j'ai voulu faire ma marque. Parce que je voyais bien que les enjeux à mon niveau n'étaient pas les mêmes qu'à leur niveau, et que j'allais passer mon temps à essayer de frapper aux bonnes portes pour avoir ne serait-ce que le matériel qui pouvait permettre de performer. Enfin, on en était là. Donc voilà, l'intention de créer sa marque, c'était aussi pour avoir les skis qu'il nous fallait, et exactement comme il nous fallait. Et c'était vraiment pas facile. Rien que les relevés de spatules à l'époque, c'était très standardisé dans le milieu du ski. Donc il y avait des relevés de spatules avec des rayons de 160 à 190, je crois. Et nous, on voulait des skis avec des relevés de spatules avec des rayons plus longs. Et ça, abominable à faire changer les codes, parce que t'as toute une usine qui est faite avec de l'outillage pour des relevés de spatules de rayon de 190, et que les mecs, ils ont absolument pas envie de changer ça, quoi, parce que ça coûte un peu de fou, ça demande de recalibrer toutes les presses, et ils veulent pas. Et ils veulent même pas, en fait, à l'époque, ils voulaient même pas, ils bloquaient, parce qu'ils savaient que s'ils ouvraient ça, c'était la boîte de Pandore, et que chacun voulait son relevé de spatule avec un rayon différent. C'est des petits problèmes comme ça, qui sont compréhensibles, hein, c'est des problèmes.